un excellent premier jour de la fête des pains sans levain. Le titre de mon message aujourd'hui, le cheminement intérieur des rachetés. Le cheminement intérieur des rachetés. À partir de notre appel, puis à partir de notre baptême, ce que nous avons entrepris, dans le fond, si on y pense un peu, c'est un voyage spirituel. On a entrepris d'abandonner nos anciennes voies qui étaient contraires aux lois de Dieu. C'est ce qu'on a commencé à faire en profondeur pour changer et pour vivre désormais conformément à toute parole de Dieu. C'est un long cheminement, ça se fait pas d'un coup et ça se fait pas par notre force. Ça se fait par la force de Dieu, mais on a entrepris un voyage pour laisser derrière l'homme ancien, pour revêtir l'homme nouveau et devenir davantage comme le Christ. Et ça, c'est un cheminement intérieur, spirituel, vers le royaume de Dieu, vers la vie éternelle. Vous savez, quand les Israélites ont entrepris leur cheminement hors d'Égypte, vous savez, c'était seulement sur le plan physique. C'était seulement sur le plan physique. Mais il y a quand même des parallèles importants qu'on peut tracer avec nous aujourd'hui puis qui nous aident vraiment à comprendre le cheminement qu'on a à faire. Et il y a deux points qui vont revenir à ce sujet-là régulièrement dans le message que je vais vous donner aujourd'hui. C'est deux points très importants. Premièrement, marcher, avancer continuellement. On n'a pas le choix. Les baptisés doivent avancer continuellement. Ne pas se laisser détourner, ne pas se laisser distraire. Ne pas négliger, ne pas abandonner. Marcher, avancer continuellement. Le premier point majeur. Et le deuxième point qu'on doit retenir de l'expérience des Israélites et que nous, on doit se rappeler en tant qu'Israélites spirituels, c'est de compter totalement sur Dieu en toutes choses et dans toutes les circonstances. Comptez totalement sur Dieu en toutes choses et dans toutes les circonstances. Reportez-vous à Exode, s'il vous plaît. Exode, chapitre 13. On voit ce qui s'est passé lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte. Exode 13, et nous allons commencer à lire au verset 17. Regardez bien. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Et rappelez-vous ce petit passage-là, je vais revenir souvent là-dessus durant le message aujourd'hui, et quand on comprend tout ce que ça veut dire, c'est tellement encourageant. Alors, il les a fait partir de là où ils étaient, mais il les a pas conduits en droite ligne. Il a pas pris le chemin le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour, un long détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et vous savez ce que ça a eu comme résultat à un moment donné. Les circonstances ont fait, ces circonstances-là que Dieu a voulu et permis, ont fait que les Israélites se sont trouvés coincés entre la mer Rouge qu'ils ne pouvaient pas franchir, entre les montagnes qui étaient en arrière et l'armée de Pharaon à un moment donné qui arrivait. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les autres Joseph, car Joseph leur avait fait jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux avec moi loin d'ici. » Ils partirent verset 20 de Succo, là où ils étaient, et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu, pour les éclairer. Dans quel but? Afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Bon. Alors, comme on a vu, c'était pas le chemin le plus court. Et là, je viens de toucher le premier point que je vais ramener régulièrement dans le sermon, un point majeur à retenir de leurs expériences. Marcher, avancer, continuellement. Et si on va juste un peu plus loin, une fois que les Israélites ont réalisé que l'armée de Pharaon était derrière eux et que là, ils étaient vraiment menacés, ils ont crié au secours à Moïse. Et regardez ce que l'Éternel a dit, verset 15, du chapitre 14, Exode 14, verset 15. L'Éternel leur appelle encore de marcher, d'avancer. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Laissez-moi le reste entre les mains, autrement dit. Faites ce que je vous dis et comptez sur moi. C'est ça qu'il leur a dit essentiellement, les deux points que je vous ai mentionnés tantôt. Et nous, aujourd'hui, à la différence des Israélites, nous, on continue à vivre physiquement en Égypte. On est encore dans ce monde-là pour le moment, au milieu de cette société mauvaise, au milieu de ce que la Bible appelle Babylone. Et c'est la volonté de Dieu pour que nous développions son caractère. Il y a un but à tout ça. Il y a un but à toute l'opération. Que Dieu nous laisse dans ce monde-là en nous disant, vous allez vivre autrement que ce monde-là d'où vous êtes issus, mais vous allez apprendre à vivre selon mes voies dans ce monde-là qui est contraire. Parce que nous sommes à l'entraînement. Pas pour des choses sans valeur, mais pour former l'équipe sous le Christ qui va changer les choses dans le monde à venir. Et quand on a de l'opposition, quand on a des situations adverses, c'est un entraînement qui nous aide à être solides. Et on en aura besoin dans les mois et les quelques années qui sont devant nous. Alors nous, aujourd'hui, on continue à vivre physiquement en Égypte, dans des circonstances adverses. Comme Daniel à Babylone. Monsieur Hernandez en a parlé tellement avec force dans un de ses messages. Comme Daniel en plein milieu de Babylone. C'est nous aujourd'hui, on a à suivre le même chemin exactement. Vous rappelez la prière du Christ, juste avant de mourir, on en a parlé lors de la cérémonie de la Pâque, Jean 17, versets 16 et 17. Le Christ dit, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, en parlant de ses disciples à l'époque, et de nous aujourd'hui. Hein? » Qu'est-ce qu'il a dit? « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. » C'est-à-dire, ils ne font plus partie de cette société. Mais on va les laisser là et on va les aider et on va leur donner de passer à travers. Et ça va être l'entraînement qu'il va leur falloir pour former l'équipe de tête pour servir dans le monde à venir. Alors oui, le Christ a dit à son père, parce qu'ils étaient déjà entendus concernant ce qui allait venir. Il dit à son père, bénis-les, garde-les en ton nom. Mais ils restent dans le monde pour l'instant. OK? Mais nous avons l'ordre, comme les Israélites, de marcher. De marcher. D'avancer. Vous irez voir dans Éphésiens 5, versets 8 à 12, vous pouvez compléter votre étude en lisant ça. Je vais simplement vous citer une partie de ça, le verset 8, où l'apôtre nous dit « Marchez comme des enfants de lumière au milieu des ténèbres. » Donc, on est différent de ce qu'on était avant, parce qu'on change et on doit continuer. Et on est différent du monde autour parce qu'on ne fait plus les mêmes choses comme avant. On devient différent. Il dit, maintenant, vous êtes des enfants de lumière, mais au milieu d'un monde de ténèbres. Marchez selon ça. Allons dans Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et on va lire à partir du verset 12. Et c'est un passage important, c'est un passage clé dans le thème que je vous donne aujourd'hui. Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » Travaillez à votre salut, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a du chemin à parcourir. Il y a un cheminement à faire. Paul le rappelle, il dit, « Faut travailler à votre salut, avec crainte, avec le respect de Dieu et avec tremblement aussi, parce que lorsqu'on a été baptisé et que le baptême est valable, c'est notre seule chance. Il n'y a pas de retour. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. » Donc, c'est pas important que quelqu'un nous surveille ou non. Il faut avoir le même comportement, celui qui plaît à Dieu, où qu'on soit, avec qui que ce soit qu'on soit. Il ne faut pas avoir un comportement quand on est avec les membres d'Église et avoir un autre comportement avec les gens de l'extérieur. Être gentil avec les membres d'Église, poli et tout ça, et arriver à l'extérieur et être plus rude ou quoi que ce soit. On doit, si on a le caractère réel de Dieu, le même caractère va paraître partout. C'est ça, avoir le caractère de Dieu. Car c'est Dieu, regardez le point encourageant ici, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Allez-y, de l'avant, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse, au milieu de Babylone, au milieu de la société mauvaise d'où Dieu nous appelle à sortir en vivant différemment. Une société perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est puissant comme message. Alors nous, on est encore au milieu de Babylone, mais il faut vivre différemment que la culture babylonienne. Il faut travailler à notre salut, changer, selon la promesse de Dieu, par sa puissance, parce que c'est seulement par sa puissance qu'on peut y arriver. Croire dans la grâce, dans la connaissance, imiter le Christ, dans tout ce que nous faisons, dans nos façons d'agir, dans nos façons de penser, ce à quoi on accorde attention, ce qu'on fait, notre façon de traiter les autres, et ainsi de suite. Devenir de plus en plus comme le Christ, en nous comportant de plus en plus comme lui, et en comptant sur lui en toutes circonstances. Puis là, je fais un petit même si. En comptant sur Dieu dans toutes les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Même si nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive. Même si nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive. Même si nous ne voyons pas toujours comment telle ou telle situation va se terminer. On n'a pas la réponse à tout et on ne sait pas comment ça va évoluer, mais il reste une chose. Si j'avance dans les voies que Dieu m'a montrées et que je compte sur lui, lui va m'amener à terme. Parce que c'est un Dieu qui ment pas. Sauf que moi, ma part, c'est d'avancer. D'avancer et de changer comme il me demande. On va vous donner un exemple qui va nous aider à comprendre. J'ai pensé à ça cette semaine, puis j'ai jeté ça sur différents côtés, puis ça nous aide, ça nous aide. Vous avez peut-être déjà fait ce petit jeu-là, on voit ça dans les revues parfois ou dans certains journaux, les jeux du labyrinthe. Ah, je vois que certains ont joué, peut-être dernièrement même. Alors, vous savez en quoi ça consiste, le jeu du labyrinthe? C'est que vous avez un dessin sur une feuille, et puis il faut se rendre à un point donné, soit au centre du dessin, ou soit ressortir de l'autre côté. Mais vous pouvez prendre des sentiers qui vous mènent nulle part, ou des grands détours, ou un sentier qui a l'air à être facile, puis d'un coup ça va nulle part. Puis il y a juste une façon de se rendre au but. OK? C'est un petit jeu. Je me rappelle, j'en ai déjà fait à différentes occasions. On appelle ça le jeu du labyrinthe. C'est un dessin où il y a plusieurs allées entrelacées. C'est un réseau de sentiers courbes, d'habitude, dont certains sentiers ne mènent nulle part, et d'autres débouchent sur d'autres possibilités d'avancer vers le but, vers, parfois c'est un jardin central, par exemple. Et c'est intéressant parce que ce jeu de labyrinthe-là qu'on voit dans les journaux, parfois ou dans certaines revues, on le retrouve grandeur plus que réelle dans la nature. Parce qu'il y a des parcs de divertissement qui ont développé ces choses-là pour faire un lieu d'attraction. Vous en avez sans doute vu. À ce moment-là, ça devient un immense labyrinthe dans un champ de maïs, par exemple. Au Québec, il y en a quelques-uns. Il y en a un immense, entre autres, du côté de la Montérégie. Et quand le maïs a poussé, qui est rendu entre 2 et 3 mètres de haut, bien, quand vous êtes dans le labyrinthe, vous voyez rien sinon du maïs et des possibilités de circuit. Alors, quand on se trouve dedans, c'est ce qu'on voit. C'est pas comme quand on regarde le petit dessin d'en haut, on peut voir un peu plus loin puis se préparer à sortir. Mais lorsqu'on est à l'intérieur du champ de maïs comme ça, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches là, pour être capable d'arriver au but. Et ça, c'est conçu par un architecte dans le cas des gros labyrinthes là, à maïs. C'est conçu par un architecte. Et après ça, il y a des arpenteurs qui vont marquer le terrain avec de la chaux pour marquer ce qui va rester comme sentier. Et là, après ça, au printemps, il y a un cultivateur qui vient, un agriculteur, et là, il sème le maïs, là où il n'y a pas de chaud, pour former les murs, les différents murs. Et là, ça pousse durant l'été, puis quand l'automne arrive, bien là, le jeu est prêt, et on peut en profiter. Alors, c'est intéressant. Il y en a un immense en particulier, comme je dis, en Montérégie. Il y a 90 000 mètres carrés. 90 000 mètres carrés, ça veut dire 9 hectares à peu près de territoire. Pour vous donner une idée encore plus précise, c'est à peu près 17 terrains de football de dimension. Alors, quand vous entrez dans le champ de maïs, là, il y a des chances que vous vous perdiez ou que vous cherchiez longtemps avant d'arriver au but. Je peux pas vous donner tous les détails, là, mais c'est toute une aventure que de cheminer dans ces sentiers-là vers le but principal. Puis là, tout au long du parcours, là, il y a des énigmes à comprendre pour être capable de trouver notre chemin aussi. Il y a des énigmes à comprendre, il y a des choses à découvrir, il y a des indices, appelons ça des révélations. Il y a des choses qui nous sont révélées pour être capable de savoir quel chemin suivre pour se rendre au but. Je vois votre sourire, vous voyez à quoi je veux en venir, parce que la Bible nous donne des indices, des révélations pour faire comprendre aux appelés quel chemin suivre pour se rendre au but, même dans les circonstances où on voit pas loin. On peut compter sur Dieu parce que lui va nous amener à l'issue, lui va nous amener au bon endroit. Alors, ça donne lieu donc à toutes sortes de situations quand vous êtes à l'intérieur de ce labyrinthe de maïs géant, et ça fait penser à notre cheminement spirituel. Ça fait vraiment penser à notre cheminement spirituel. Des champs de maïs, quand on est dedans, on voit seulement horizontalement. On ne voit pas par en dessus. Et j'ai regardé à un moment donné, en arrivant dans le jeu, il y avait un beau sentier très long qui semblait aller jusque vers le centre du jeu. Là, on pouvait arriver au jardin qui est l'objectif à se rendre. Un sentier large. Sentier large, puis il semblait droit. Sauf que si on allait dans ce sentier large droit, on arrive tout proche, mais ça sort pas nulle part. On sort pas en face, il n'y a pas d'issue d'un côté. Il faut revenir au point de départ, dans le jeu comme tel. Mais au point de vue spirituel, c'est la même chose. C'est la voie large. Voilà, le moins de choses à faire, le moins d'arriver le plus vite possible. Je veux y être hier, puis je veux pas avoir d'effort à faire. Je veux aller où moi je pense. Sentier large qui semble aller en droite ligne vers le jardin central, mais qui est bloqué au bout et qui a aucune issue ni d'un côté ni de l'autre. Vous avez aussi des sentiers plus faciles, mais sans énigmes et sans révélation. Mais où il y a de la facilité. Donc, on pense qu'on peut faire pas mal de chemin sans avoir à trop se casser la tête et à faire des choses qui nous plaisent à nous. OK? Comparez ça sur le plan spirituel. Alors que Dieu dit, suivez ce que je vous dis. C'est le seul chemin pour arriver au royaume. Alors, ce genre de sentier-là va pas plus loin. Il est sans issue. Il y a aussi des sentiers plus étroits, plus complexes et plus exigeants. Et là, il faut travailler. On vient de voir tantôt. Travailler à votre salut. OK? Ça demande des efforts, ça demande de réfléchir. Et ça demande plus que ça, ça demande de compter sur Dieu, comme on va le voir tantôt. Et parfois, il y a même des sentiers qui font des longs détours. Puis là, on a l'impression qu'on n'arrivera nulle part, mais tout à coup, ça débouche réellement vers des possibilités d'atteindre l'objectif. Alors, il y a un petit peu de tout. Je vous donne cet exemple-là parce que ça nous aide à comprendre un peu, je pense, notre cheminement spirituel. En amenant les Israélites hors d'Égypte, Dieu les a conduits pas par le chemin le plus court, comme on a vu tantôt, mais il les a conduits sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Juste ça, on a de quoi penser là-dessus. Il les a amenés sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Vous et moi, quand il nous a appelés, est-ce qu'il n'a pas fait la même chose? Il nous a amenés dans des façons de vivre que nous ne connaissions pas, que nous devions adopter. Et il les a amenés sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas et qui pouvait sembler même illogique à l'œil humain, parce qu'ils se sont trouvés entre la mer Rouge, puis la montagne, puis l'armée de Pharaon. Alors, à l'œil humain, c'est pas logique. Mais le grand architecte, lui, Dieu, est en charge. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il permet, puis il sait où est-ce que ça s'en va. C'est la même chose pour nous, parce que on doit marcher en nouveauté de vie, dans du terrain neuf, et on doit avancer là-dedans. Et c'est là qu'est un cheminement intérieur personnel, de changement personnel, au milieu de Babylone, au milieu d'un monde hostile qui ne croit pas à ces voies-là et qui ne veut pas vivre selon les voies de Dieu. Alors nous, on doit marcher en nouveauté de vie. Et parfois, et même des fois souvent, dans notre cheminement spirituel, on passe par des expériences inattendues. Eux autres, ils en ont eu des expériences inattendues. Mais vous aussi, vous en avez eu. Et moi aussi, j'en ai eu. À un moment donné, on avait l'impression d'être devant un mur de maïs de 3 mètres de haut, et on savait pas où était l'issue, hein? Comment ça allait finir? Et certains ont dû sacrifier des choses pour obéir à Dieu en lui faisant absolument confiance. Même en perdant un emploi à cause du sabbat, par exemple, et en disant, je sais pas où je vais aller, je sais pas ce que je vais faire, mais je sais une chose. Je sers le Dieu puissant, et là, je suis en train de faire ce qu'il m'a dit de faire, de marcher avec lui, et il m'a promis qu'il allait prendre soin de moi, si je marche avec lui. Si j'ai encore des choses à apprendre et que je marche pas vraiment avec lui, il va s'organiser pour que j'apprenne les choses en question. Alors, il y a des choses qui sont pas toujours inexplicables. Il y a des choses inattendues qui arrivent, ou des choses qu'on ne comprend pas nécessairement sur le coup. Il y a 2 jours, on a pris la Pâque. Ça a été une superbe expérience. C'est tellement heureux de prendre la Pâque. C'est la fête, justement, des libérés. La fête des rachetés. On se rappelle le prix qui a été payé pour nous autres. On peut resigner le contrat en disant à Dieu, on veut continuer. Alors, on a célébré la Pâque. Et si nous l'avons pris dignement, dans une attitude de désir réel de changer complètement à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'aujourd'hui, on continue à être sous le sang du Christ. On continue à être épargné de la mort éternelle. C'est ça, parce qu'au baptême, on s'est placé sous le sang du Christ qui a lavé notre vie passée. Et à chaque Pâque, on renouvelle cet engagement-là. Et si on l'apprend dignement, en voulant continuer à changer de tout cœur, en disant à Dieu, ce que j'ai pas vu encore à changer dans ma vie, montre-moi. Quand je dis ça à Dieu, Dieu me garde sous le sang du Christ et je suis encore parmi les rachetés et parmi de la mort éternelle. Et avant la Pâque, qu'est-ce qu'on a fait, hein? On a étudié sur le sacrifice de Christ. On a étudié sur les pains sans levain, sur les choses qu'on devait changer. On s'est examiné. On a sorti le levain physique de nos maisons, là, puis on a appris plein de leçons spirituelles en faisant ces exercices-là. Et on réfléchit maintenant encore aux choses qu'on a à changer. Et c'est intéressant, faut que je vous dise 100%. Certains commentaires que j'ai reçus de membres de l'Église, certains m'ont dit, j'ai compris cette année certaines choses importantes que j'avais jamais vues auparavant. Puis je parle pas nécessairement des membres qui viennent d'arriver, là, des membres plus anciens. Mais quand ça se passe, c'est parce que Dieu travaille puissamment avec vous encore. Certains m'ont fait ce commentaire-là. D'autres ont dit, j'ai vu plus clairement les choses à changer. Il y a des choses que j'avais pas vues dans moi. Là, je commence à voir. Faut pas se décourager. Dieu nous les montre. S'il nous les montre, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il nous travaille, parce qu'il veut qu'on arrive au but. C'est parce qu'il est encore en train d'œuvrer avec nous. D'autres m'ont dit, j'avais vraiment hâte de prendre la Pâque parce que j'en ai besoin. Wow! Et c'est ça! On n'est pas parfait, on a besoin de prendre la Pâque. On est encore en cheminement, on n'est pas rendu. Mais il faut encore avoir le cœur, par exemple, être en train de s'en aller et pas garder de jardin secret dans notre vie ou de domaine qu'on ne veut pas changer. Parce que si on garde des domaines dans notre vie qu'on ne veut pas changer, c'est qu'on ne veut pas changer. Parce qu'avec Dieu, c'est tout ou rien. Et ça, il faut l'apprendre. Ça, il faut l'apprendre aussi. Il n'y a pas de demi-mesure. Même si on n'est pas parfait, il faut travailler à le devenir. Vous savez, la Pâque n'est valable que si nous travaillons à changer. La Pâque n'est valable que si nous travaillons à changer. Ça se comprend? Le Christ est mort à cause de nos péchés. Alors, si je ne travaille pas à changer vraiment, c'est comme si je traitais son sacrifice comme sans valeur. Pas parce que il m'arrivera pas de tomber, je tombe, oui, mais je me relève tout de suite, je demande pardon, je vais devant le trône de miséricorde et je suis pardonné, je suis secouru. Mais je ne garde rien de secret dans mon jardin de vie, tout est ouvert à Dieu et je lui dis, montre-moi même les fautes que je ne connais pas. Parce que la Pâque n'est valable que si nous travaillons à changer. Dans toute chose. Mais c'est une transformation graduelle qui va devenir à un moment donné totale. On en parlait sur l'heure du midi. Dieu va nous rendre parfaits à un seul moment donné, le jour du retour de Christ. Quand il va nous donner la vie éternelle, puis qu'il va nous rendre parfaits, parce qu'on ne sera pas encore parfaits. Mais il faudra être en train de s'en aller dans cette direction-là pour qu'il nous rende parfaits. Si je garde des choses qui ne sont pas de lui, je ne pourrai pas entrer. Parce que Dieu dit, il n'y aura pas de menteur dans le royaume. Si j'ai des problèmes avec ça, il faut que j'y règle. Il faut que je supplie Dieu. Il faut que je travaille là-dessus. Il n'y aura pas de voleur dans le royaume, il dit. Il n'y aura pas d'adultère dans le royaume. Il dit, il n'y aura pas de fornicateur dans le royaume. Nommez tous les commandements, si vous voulez. Il n'y en aura pas. Parce que ceux qui vont rentrer dans le royaume, ils vont être en train de travailler tellement fort à leur salut, même s'ils ne sont pas parfaits, que Dieu va les rendre parfaits pour qu'ils soient capables de ne plus jamais pécher après. Ils vont être rendus au jardin central, l'autre côté du labyrinthe, si vous voulez. Si je résume d'une façon spéciale, si on réfléchit comme il faut, la Pâque, là, en d'autres termes, c'est obéir ou mourir. Pensez-y. La Pâque, pour les vrais baptisés, c'est obéir ou mourir, ou bien la mort éternelle. Et regardez sur le plan physique. Les Israélites, ça a été dans le même sens. Si les Israélites n'avaient pas obéi au commandement, qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Vous allez prendre un petit agneau à tel moment donné précis, vous allez prendre de son sang, vous allez mettre de son sang sur le linteau de la porte et sur les poteaux, puis quand l'ange de la mort va passer, il va passer par-dessus les maisons, il va épargner les maisons où le sang de l'agneau a été mis. S'il n'avait pas mis le sang de l'agneau, il y aurait eu un mort dans la maison, le premier-né de cette maison-là serait mort, s'il n'avait pas obéi. C'est la même chose pour nous. On s'est placé sous le sang du Christ. Maintenant, notre voyage est aller seulement. Aller seulement. Eux seraient morts physiquement. Maintenant, à nous, aujourd'hui, Israël spirituel, pour les vrais baptisés, comme je mentionnais, il n'y a pas de retour. Si on n'avance pas, si on ne va pas de l'avant, il faut être encouragé parce que la force nous vient de lui, pas de nous autres. Mais il faut le supplier, l'aider, de nous aider, lui demander. Il faut aller de l'avant. Il faut demeurer, autrement dit, sous le sang du Christ. Et pour demeurer sous le sang du Christ, puis continuer d'être pardonné lorsque, par faiblesse ou ainsi, la même chose, par faiblesse ou par circonstance fortuite qui nous arrive de pécher, pour être pardonné, il faut être encore en train de se repentir puis de vouloir changer. Pour parvenir à la vie éternelle, ça va être seulement au retour de Jésus-Christ que le salut, la vie éternelle, va être accordé aux fidèles. Seulement au retour de Jésus-Christ, pas avant. Le salut, c'est quand le Christ revient. Vous pouvez regarder rapidement dans Apocalypse 12, le début du verset 10. Apocalypse 12, début du verset 10. Ça parle d'un temps pas tellement loin, lorsque le Christ va revenir. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. » Alors, on voit que le salut, qui est le fait d'accorder la vie éternelle aux fidèles serviteurs de Dieu, s'est accordé seulement au retour de Christ. D'ici là, les rachetés sont en marche. Ils sont en cheminement vers le jardin, vers Éden, vers le royaume, vers la vie éternelle. Et ils doivent marcher, changer, avancer, travailler et compter sur Dieu. Et même lorsqu'on ne comprend pas tout ce qui arrive, s'en remettre à lui et dire, si moi je suis fidèle, Dieu ne ment pas, il va être fidèle. Il va m'amener à terme. Et Dieu va tout faire. Il va tout faire pour ceux qui ont été vraiment baptisés, qui se sont vraiment repentis au moment de leur baptême. Même pour les Laodicéens. Ceux qui négligent ou qui se détournent parce que Dieu les aime, ce sont des membres de l'Église, et Dieu les aime tellement qu'il va les permettre qu'ils passent par la grande détresse pour lui prouver qu'ils tiennent à lui appartenir. Le coût est beaucoup plus grand, mais il ne fait pas ça parce qu'il ne les aime pas. Il fait ça parce qu'il les aime, justement parce qu'ils veulent, il veut qu'ils aient la vie éternelle. C'est pour ça qu'il permet cette punition pour les réveiller pour donner une dernière chance. Parce qu'après ça, si à ce moment-là, ceux-là ne passent pas le test, vous savez ce qui arrive après. C'est la destruction totale, c'est les temps de feu. Ça, c'est pour les véritables appelés, ceux dont le baptême est valable, ceux qui se sont vraiment repentis au moment de leur baptême et qui continuent à se repentir. Alors, au baptême, vous et moi, on a signé un contrat, pas avec de l'encre. On a signé un contrat dans le sang du Christ. Un contrat où on s'est engagé, moi je le sais, et je le dis consciemment, et je le chéris ce contrat-là. Je me suis engagé à le suivre puis à faire toute sa volonté, puis à changer, malgré que je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Dans le peu de temps qui reste, il faut mettre les bouchées doubles un peu. Et je sais qu'il faut que je mette les bouchées doubles pour changer et obéir à Dieu puis être prêt. Tenez-vous prêt, veillez et priez, car vous ne savez quand votre Seigneur viendra. Ça va avec ça. Et si je ne fais pas vraiment ma part pour changer, je vais plus loin, à quoi bon prendre la Pâque? Si je ne fais pas ma part pour changer, à quoi bon prendre la Pâque? Ça va vraiment ensemble. Par contre, si vous et moi, on fait notre part, on marche avec Dieu, on compte sur lui, à ce moment-là, je suis en harmonie avec lui. Oui, je suis en communion avec lui, puis il dit, quand ça vous arrive de tomber, il vous pardonne, puis il vous aide à aller plus loin. Là, je suis en harmonie avec mon Dieu. Je m'efforce de lui plaire. Je marche dans la lumière, comme Paul disait. Et quand ça nous arrive de tomber, le sang de Christ nous purifie, comme c'est marqué dans 1 Jean 1, verset 7. Notez-le, vous pourrez refaire l'étude à partir de ce sermon-là. C'est vraiment encourageant de le voir de cette façon-là. Et si on marche en harmonie avec Dieu, si on continue de travailler à sortir le levain de nos vies, pas juste ça, mais à le remplacer par le pain de justice, à vivre selon la justice de Dieu, pour lui plaire, à ce moment-là, on a de l'assurance devant Dieu. C'est pour ça que la Bible parle que certaines personnes ont de l'assurance devant Dieu. Parce qu'on n'a pas peur de Dieu. On n'a pas peur de Dieu à ce moment-là. On n'a pas peur du châtiment, parce qu'il n'y en a pas de châtiment. On a été lavé de nos fautes. L'amende a été payée. Alors, on a de l'assurance, une assurance joyeuse et une assurance heureuse. Je vais vous donner un exemple. Comme après un jeûne. Avez-vous remarqué, quand on fait un jour de jeûne, quand on va prier Dieu la dernière fois à la fin de la journée avant d'aller manger, enfin, et prendre un peu d'eau, enfin, ou du café, pour ceux qui sont des gros amateurs de café, je nommerai pas personne, mais à ce moment-là, quand on se lève, on repart, on est comme sur les chapeaux de roue, comme dirait M. Armstrong. On est léger, puis on sent la présence de Dieu. Et souvent, Dieu répond à certaines questions ou à certaines demandes précises à ce moment-là, pour nous aider à vaincre nos choses ou à comprendre une situation. Pourquoi? Parce qu'on marche avec lui et qu'on compte sur lui. On marche avec lui, on compte sur lui. Les jeûnes, c'est formidable. Proverbe chapitre 4. Vous savez, quand le Christ a parlé des jeûnes, il n'a pas dit si vous jeûnez. Puis il n'a pas parlé de jeûner juste aux expiations, hein. Il a dit quand vous jeûnez, faites ceci, faites cela. Parce qu'il nous a donné un outil puissant pour justement s'approcher de la puissance de l'univers. Ici, dans Proverbe chapitre 4, c'est intéressant, je pourrais vous dire ceci. Le passage que je vais vous citer, imaginez-vous, et c'est ça aussi, que c'est une carte personnelle que Dieu vous adresse à chacun de vous pour les fêtes du printemps, pour la fête des pains sans levain. Bien-aimé un tel ou bien-aimé une telle, il s'adresse à ses enfants. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Proverbe 4, verset 20. Mon fils, on pourrait dire ma fille aussi. Sois attentif à mes paroles. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Pourquoi est-ce qu'on étudie chaque jour ces paroles? C'est pour pas que ça s'éloigne, non pas seulement de nos yeux, mais de notre pensée, de notre cœur, pour ajuster nos agissements. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les où? Dans le fond de ton cœur. Faut que ça devienne nous. Pas seulement connaître la parole de Dieu, mais en vivre, et pas seulement en vivre graduellement et à tel point que la parole de Dieu devient moi. Comme le Christ est, comme la Bible est la parole écrite, c'est le Christ en écrit. Alors, cet écrit-là, ces écrits-là que je prends en moi et selon lesquels je vis, je deviens comme le Christ. C'est ça. Alors, mon fils, sois attentif. Verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute chose. Voyez-vous, c'est quelque chose d'intérieur. Je vous ai parlé tantôt que le cheminement des rachetés, c'est un cheminement intérieur. C'est là que le changement doit se faire pour qu'il devienne permanent. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Signé, ton Dieu, ton Père qui t'aime, au bas de la carte, pour chacun et chacune d'entre vous aujourd'hui à la fête des pains sans levain. C'est vraiment tellement encourageant. Alors Dieu dit, écoutez, je m'attends à un changement de cœur. Je vais vous donner tout ce qu'il faut. C'est un cheminement intérieur vers l'homme nouveau. Mais cet homme nouveau-là, il n'est pas encore total, il n'est pas encore absolu, il n'est pas encore complet. Ça va venir dans le temps et il va nous rendre parfait le jour où il va venir. Et c'est tellement important, le changement de cœur, que on voit dans certains versets que la bouche, elle parle de l'abondance du cœur. Et on voit ça chez les gens très facilement à un moment donné. Selon ce qui sort de la bouche, la façon de réagir, la façon de répondre, la façon de dire les choses, la façon de considérer les autres, ça dit le portrait exactement de ce qu'il y a en dedans. Quand quelqu'un est considéré, quand quelqu'un a du respect envers un autre, quand quelqu'un parle avec douceur, quand quelqu'un parle avec compréhension, on sait ce qu'il y a dans son cœur. Ou quand quelqu'un ne veut pas transgresser les lois de Dieu, ça paraît aussi dans ce qu'il dit. Alors, voyez-vous, notre combat chrétien, c'est une lutte intérieure. C'est un combat intérieur. Chacune de nos luttes, d'ailleurs, commence dans le cœur. Mais ça commence à un endroit tortueux, parce que le cœur est tortueux. Puis, ça s'en va pas d'un coup sec. Même pour ceux qui sont dans l'Église depuis longtemps, même pour moi qui suis dans l'Église depuis longtemps, faut que je me méfie de mon cœur. Parce que quand je regarde Jérémie, qui dit « le cœur humain est tortueux plus que toute chose », c'est vrai pour moi ici. Alors, faut que je me méfie de ça aussi. Et que je demande à Dieu de m'aider à le voir tel qu'il est. Alors, nos luttes, ça commence dans le cœur, dans la pensée. Vous savez une chose? Les paroles, là, puis les actions, notre façon d'agir, c'est simplement le résultat de nos pensées. Réfléchissez à ça. C'est simplement le résultat de nos pensées. C'est simplement des symptômes extérieurs de ce qu'il y a en dedans. Quelqu'un qui a toujours des paroles dures, ou quelqu'un qui triche sur la vérité, ou qui essaie de sortir de toutes sortes de situations, voyez-vous, ça, c'est ce qu'il y a en dedans. Ça peut pas faire autrement. Ça sort, ça finit par sortir. C'est la dernière étape. Et Dieu veut, nous, avec son aide, voir qu'on fait un travail intérieur. Sinon, vous savez ce qui se passe? Sinon, on ne fait que poser des gestes extérieurs, comme les pharisiens. Les pharisiens n'en posaient des gestes extérieurs. Même, ils en ont ajouté plus que le Christ avait demandé, pour tellement que ça paraisse bien. Justement, c'est le paraître, et ce n'est pas l'être. Alors, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons comme le Christ, que nous devenions comme le Christ. Il veut que ce travail intérieur-là se fasse. Sinon, c'est seulement des gestes extérieurs. C'est un semblant de conversion. Ou c'est une demi-conversion. Or, avec Dieu, je le répète, c'est vrai. C'est vrai pour moi, puis c'est vrai pour chacun d'entre nous. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Avec Dieu, c'est tout ou rien. On est encore dans une période où on peut changer, où on peut supplier Dieu. Il va nous donner tout ce qu'on a besoin pour arriver au but. Mais quand ça va être rendu le temps du royaume, il permettra pas à aucun de ses enfants qui a encore gardé dans sa vie volontairement du mensonge, de l'adultère, de l'ivrognerie, nommez-les. C'est clair, dans la Bible, il dit à plusieurs occasions, plusieurs reprises. Et ça s'adresse à ses enfants. Dieu est en train de créer en dedans de nous un caractère. Puis où qu'on va aller, on aura toujours le même caractère. Moi, j'aime ça voir des gens qu'on appelle des gens de caractère, mais dans le bon sens du terme, des gens qui ont une parole. Vous savez, quelqu'un qui donne sa parole et qu'on peut se fier, ça vaut plus que des écrits, comme c'était autrefois dans la société aussi. Moi, j'ai vu ça à différentes occasions. Des gens même prêtaient de l'argent à un autre, puis des fois, des bonnes sommes d'argent, pas de papier. Pas besoin de papier, il m'a donné sa parole qu'il allait me rembourser. Puis l'autre remboursait. C'était comme ça. Parce que la réputation était là, c'était le caractère de l'emprunteur, de cet emprunteur-là, de respecter la parole qu'il donnait. Ça, c'est le caractère, n'importe où. Quelqu'un qui prenait pas rien qui ne lui appartenait pas. Je me rappelle de m'être fait dire, et c'est vrai, commencez pas à prendre 5 sous. Parce que si vous prenez 5 sous, vous allez prendre 1 $, vous allez en prendre 100, vous allez en prendre 1000. C'est pas le montant, c'est le geste. Notre père nous disait ça. Il disait, les petits gars, prenez jamais 5 cents qui est pas à vous autres. Parce que si vous prenez 5 cents qui est pas à vous autres, c'est rien qu'une question de temps avant que vous preniez plus. Coupez ça au point de départ. Et c'est formidable. C'est formidable. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Il développe son caractère en nous. Et, vous savez, il y a une autre façon de définir le caractère qui est intéressante, puis c'est une mesure qu'on peut s'appliquer chacun à nous. Le vrai caractère, c'est ce qu'on fait quand personne nous voit. Pensez-y. Le vrai caractère, si on a des principes, puis on a envie, puis c'est intérieur, puis on veut plaire à Dieu, c'est ce qu'on fait quand personne nous voit. Si vous faites des choses différentes quand personne vous voit, que quand quelqu'un vous voit, vous êtes en difficulté. Vous n'êtes pas sur le chemin de développer le caractère de Dieu. Pas vraiment. Il faut que ça soit dans le cœur, il faut que ce soit réel, il faut que ce soit profond, il faut que ce soit durable, et ça s'en va vers l'éternité. Maintenant, comment les rachetés qui ont pris la Pâque peuvent-ils réussir à traverser, ce que je vous parlais tantôt, le labyrinthe de la vie? Parce qu'il y a des obstacles, il y a des demi-tours, il y a des difficultés. Comment parvenir au royaume? 2 points. Si vous avez noté les 2 points que je vous ai donnés au point de départ, c'est nos 2 clés de base. Marcher fermement dans les voies de Dieu. Essayer de s'améliorer avec son aide régulièrement. Avancer, marcher. Et deuxièmement, compter sur Dieu constamment. Compter sur Dieu constamment. Et vous savez, je compare le Saint-Esprit, bien sûr, toute comparaison est boiteuse, là, mais je compare le Saint-Esprit à un outil moderne qu'on appelle le GPS. Je vois les sourires, il y en a qui ont découvert ça, c'est très commode. Ça nous permet de trouver notre chemin puis d'arriver à bon port, même quand tout est mêlé dans des circuits routiers difficiles ou dans des villes où il y a des travaux ou quoi que ce soit. On vient à bout de trouver notre lieu où on va aller grâce au GPS. Parce que c'est un système qui va chercher par satellite notre positionnement par rapport au positionnement où on veut aller. Dieu en haut sait où il veut nous amener. Et il sait notre positionnement. C'est ça. Alors, si j'ai l'Esprit de Dieu, si je travaille avec l'Esprit de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, je peux communiquer avec mon Père. Et dire, Père, aide-moi. Aide-moi à vaincre telle chose. Aide-moi à comprendre telle situation. Ou si je peux pas comprendre pourquoi les choses sont de même, aide-moi à t'être fidèle. Puis tu me le montreras quand tu voudras. Quand toi, tu vas juger à propos de me le montrer. Et si j'ai des choses à apprendre à travers ça, montre-le-moi. Voyez-vous, je travaille avec mon GPS, avec le Saint-Esprit que Dieu m'a donné. Et ça fait toute la différence. Parce que même s'il est, c'est plein de sentiers, de labyrinthes autour, je sais pas quel qui va déboucher, je sais pas si c'est le bon, je sais pas comment long il va être, quelle que soit la situation. Dieu dit, je vais vous emmener à terme, si vous marchez, si vous êtes fidèles, si vous marchez dans mes voies. Et vous allez dans Actes 5, verset 32, c'est écrit que Dieu donne son esprit à qui? À ceux qui lui obéissent, hein? Alors, si quelqu'un est venu à l'Église, a été baptisé, a obéi à Dieu, et commence à diminuer d'obéir à Dieu, il a moins d'esprit. De moins en moins d'esprit, et il voit de moins en moins clair. À un moment donné, il ne comprend plus les choses. Le GPS ne fonctionne plus. Et là, la personne est en danger. Parfois, Dieu va permettre des bouleversements pour que la personne comprenne et se réveille. Et si c'est pas suffisant, Dieu va permettre probablement que la personne passe par la grande détresse pour espérer que la personne passe au travers et puisse être dans le royaume. Mais je compare ça à un GPS. Allez à Psaume 57, s'il vous plaît. Psaume 57. ça nous aide à le voir avec des exemples comme ça. Psaume 57, c'est David, bien sûr. Psaume 57, et le verset 8. Et ça, ici, c'est la décision que nous, on doit, comment je dirais, pas faire pour la première fois parce qu'on l'a faite à notre baptême, mais profiter des fêtes du printemps cette année pour la refaire, cette décision-là. Psaume 57, verset 8. Regardez ce que David dit à Dieu. « Mon cœur est affermi. » Dans le sens original, c'est « Dieu, j'ai décidé d'être ferme. » Dieu, j'ai décidé d'être ferme. Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments et ainsi de suite. Et il dit ça à la fin d'une description qui s'appliquait à lui, mais qui s'applique à nous aussi. À la fin de la description d'un parcours de labyrinthe dans sa vie humaine qui était loin d'être un champ de roses. Il a été poursuivi par Saul, par Saül. Il a été traité de différentes façons. Il a souffert énormément, mais regardez, il s'est fié à Dieu, il a continué à marcher et son GPS était en opération. Il comptait sur Dieu. Et il dit, Dieu, malgré les circonstances, même si je comprends pas tout, il avait été ordonné pour être roi sur Israël, il était en fuite, alors que l'ancien roi qui était encore en poste, Saül, voulait le tuer. Il aurait eu toutes les raisons pour dire à Dieu, je comprends pas, là. Tu m'as certainement pas appelé. Je vivrais pas une situation comme ça. Tu me ferais pas une chose comme ça. Non. Il a pas remis ça en question. Absolument pas. Il dit, Dieu, j'ai décidé d'être ferme, quelles que soient les circonstances. C'est pas pour rien que Dieu dit de David, c'est un homme selon mon cœur. Et David avait son GPS opérationnel. Et il disait, quelles que soient les circonstances, moi, c'est Dieu que je sers. Pourtant, il a fait des erreurs, comme nous, on en fait tous en cours de route. Mais Dieu l'a amené à terme. Puis il va être roi dans le monde à venir encore. C'est formidable. Et regardez, lisons à partir du verset 1, 1 à 7. On va voir un petit peu son labyrinthe. OK? Au chef des chantres, ne détruit pas, hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Je comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Les murailles de maïs autour étaient dangereuses, effrayantes. Il comprenait pas ce qui allait arriver. Il dit juste que ce soit passé, soit mon refuge. Moi, je reste attaché à toi, Dieu. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il savait pas comment il allait agir, là, à ce moment-là. Mais il dit, je sais que tu agis en faveur de ceux qui te servent. Et je sais que tu vas agir en ma faveur. Comme on peut dire la même chose dans des circonstances dont on ne comprend pas la cause ni l'aboutissement. Mais si on fait notre part, on sait que Dieu va nous amener à terme. Il m'enverra du ciel le salut. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions, et parfois il y a de l'adversité tout proche autour de nous. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Verset 8, mon cœur est affermi. J'ai décidé d'être ferme, mon Dieu. J'ai décidé d'être ferme. Moi, c'est quelque chose que je dis à Dieu à cette fête-ci. Je décide d'être ferme. Aide-moi. C'est toi qui crée le vouloir et le pouvoir. Fais-le encore plus. Faites-le. Faites-le. Parce que chaque année, lorsqu'on fait le circuit des fêtes, ça nous rapproche d'une année des grands bouleversements qui s'en viennent. Et quand les grands bouleversements seront sur nous, il faudra déjà être proche de Dieu et être très fort. Sinon, la panique peut prendre. Et à ce moment-là, vous savez, les vierges qui n'ont pas assez d'huile, le GPS ne fonctionne plus. Et là, c'est l'inquiétude. Parce qu'on n'a plus de temps, on n'est pas prêt, on n'a plus le temps de se préparer, on regarde à gauche et à droite. Alors que celles qui seront prêtes sauront quoi faire, elles vont entendre la voix du Christ. Déterminons d'être fermes. Rappelez-vous votre baptême. Rappelez-vous vos premiers amours. Je pensais à ça cette semaine. Ça a été tellement important qu'on a été tellement attaché à ce qui s'est passé à ce moment-là. On a tellement été reconnaissant à Dieu de nous avoir appelés. Revivez ce premier amour-là. Revivez ce premier amour-là. Gardez les yeux sur le but, sur le jardin central, comme Abraham, qui avait les yeux sur la cité à venir. Il s'est même endormi. Dieu n'a pas permis qu'il vive jusque-là. Bien sûr, il s'est endormi. Il n'a pas reçu les promesses qui lui avaient été faites. Mais il savait qu'il allait recevoir l'héritage dans le monde à venir. Et il s'est endormi avec ça dans le cœur. Il voyait de loin la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. Décidé d'aller jusqu'au bout. Décidé aussi de vous souvenir, s'il vous plaît, des miracles que Dieu a faits quand il vous a appelé, pour vous appeler. Parce qu'il y a toute une série de miracles dans la vie de chacun que Dieu a appelé, des choses qui se sont passées, où c'était Dieu lui-même qui intervenait pour vous attirer au Christ. Rappelez-vous de ces miracles-là. C'est tellement important. C'est tellement important. Bravo ceux qui le font. Continuez. Regardez le chemin que vous avez déjà de fait. Ça nous encourage de voir le chemin qu'on a de fait. On dit, bon, ben j'ai ça de fait. Dieu, j'en ai encore, aide-moi. Mais merci de m'avoir aidé à faire ce bout de chemin-là. Encouragez-vous avec ça. Mais souvenez-vous des nombreux miracles que Dieu a faits. Et je connais certaines personnes dans l'Église qui gardent un cahier et qui ajoutent à mesure des semaines les interventions que Dieu fait pour eux, les portes qu'il ouvre, les réponses qu'il donne. Et parfois, lorsqu'il y a des creux de vagues, ils retournent dans ce cahier-là et ils regardent la série des interventions de Dieu en leur faveur. Et ça redonne de la vigueur. Ça fait voir que c'est lui qui est en charge. S'il m'a répondu la semaine dernière, la semaine d'avant, le mois passé, lorsque j'ai été malade, lorsque j'ai été protégé d'un accident, lorsqu'il a répondu à telle demande pour telle personne, lorsqu'on a prié et que telle personne a été répondue, c'est le même Dieu aujourd'hui. Il va faire la même chose. Je peux me fier. Je peux me fier à mon GPS. Vous savez, les Israélites, eux, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient vu les 10 grands miracles que Dieu avait faits. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exercé un choix. On a toujours un choix. Mais c'est dangereux, le choix. Parce que quand on a un choix, on peut prendre un chemin ou l'autre. Eux, ils ont choisi d'oublier les 10 grands miracles qu'ils venaient de voir. Et de voir simplement le labyrinthe ou les murs de maïs qu'il y avait en avant et le grand mur de maïs qu'il y avait en arrière, la montagne, la mer Rouge, l'armée de Pharaon. Et on dit, bon, il nous a amenés ici pour mourir. On a accusé Dieu même de là où il était rendu. Dieu guide ses rachetés persévérants à travers le labyrinthe de la vie, à travers les circonstances, et là j'insiste là-dessus, à travers les circonstances que Dieu lui-même permet. Dieu les permet, toutes les circonstances. Parfois, c'est notre faute. Parfois, on amène sur nous des circonstances désastreuses, des circonstances de souffrance, parce qu'on a fait des mauvais choix ou qu'on est entêté et Dieu permet qu'on aille jusqu'au bout pour nous apprendre des leçons. Mais Dieu nous guide ses rachetés persévérants à travers le labyrinthe de la vie. Il permet des circonstances pour nous renforcer. Et on ne comprend pas toujours sur le coup ce qui arrive. Pensez au chemin que vous avez parcouru depuis votre appel. Depuis que Dieu vous a donné de commencer à comprendre. Dieu en a permis des obstacles. Dieu en a permis des épreuves. Puis il va le faire encore. Mais il y a toujours en même temps la promesse, « Je t'abandonnerai jamais, je te délaisserai jamais. » Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Il y a ces promesses-là qui sont toujours là. Et Dieu dit, « Je vais vous mener à terme. » Vous savez, Dieu ne nous mène pas vers le royaume par le chemin le plus court. Il nous mène pas vers le royaume par le chemin le plus court, ni par le chemin le plus direct, ni par le chemin le plus large, ni par le chemin le plus facile. Non, mais tout ça a un but, absolument. Dieu permet les épreuves. La semaine dernière, M. Serge Delaunière, un membre d'ici, était à l'hôpital. Lui qui a déjà souffert beaucoup, problèmes cardiaques, un rein d'enlevé, beaucoup de douleurs, une circulation disparu dans une jambe complètement. On lui a changé l'artère complète dans la jambe. Il souffrait énormément quand je l'ai vu. Et vous savez ce que M. Delaunière m'a dit? Il était dans les grandes douleurs, là, parce que ce qu'on lui donnait pour atténuer la douleur créait des effets secondaires et on pouvait pas fonctionner au maximum avec ça. Donc, c'était très, très, très pénible. Et ce que M. Delaunière m'a dit à ce moment-là, il dit, « Je suis reconnaissant à Dieu de ce qui m'arrive. » Wow! J'écoutais. Il dit, il était dans son lit de souffrance, là. C'était pas une grande bénédiction qu'il recevait. Mais c'était une grande bénédiction qu'il recevait. Parce qu'il dit, Dieu me bénit actuellement et je suis reconnaissant pour ce qu'il me donne de vivre parce que ça me rapproche de lui et que je comprends davantage de choses. Le GPS t'a ouvert. Même si la situation était terrible, si vous voulez, il voyait plus loin que ça. Et il était en rapport avec son Créateur. Et il disait, ça va sortir au mieux selon la volonté de mon Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, quand on décortique ce que ça veut dire. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, Dieu permet les obstacles, les épreuves, l'opposition, les choix difficiles, les irritants, même de nos proches, pour nous entraîner, pour nous raffermir, pour nous solidifier dans la vérité puis dans la foi. Dieu permet même parfois que des gens viennent à l'Église sans vraiment se convertir. Sans vraiment se convertir, mais en ayant les apparences et la bonne volonté de le faire, possiblement. Dieu permet que des gens viennent à l'Église sans vraiment se convertir. Et savez ce que ça fait? Ça éprouve, ça met au test les vrais convertis. Est-ce qu'ils vont se tenir debout sur ce qu'ils savent, ou s'ils vont prêter oreille à tous les enseignements qui peuvent venir de gauche et de droite de certaines autres personnes qui rentrent à l'Église et qui amènent d'autres sortes d'enseignements ou d'autres considérations? Qu'est-ce que lui va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'ivraie qui est là? Vous savez, l'ivraie, c'est dans le bon champ, hein? Il y a le blé et il y a l'ivraie que Dieu permet d'être au travers. Et ce que ça fait, c'est que ça fait solidifier le bon grain qui pousse à travers de ça, jusqu'au jour où Dieu va faire la différence. Dieu permet parfois que des gens viennent à l'Église sans être vraiment convertis. Ça éprouve les vrais convertis. Ça les amène à solidifier leur croyance, leur position. C'est des tests. C'est des tests comme quelqu'un qui lève des poids et haltères et qui devient plus résistant et qui est capable d'aller encore plus loin puis d'être encore plus fort. Vous savez, il y a d'autres défis plus grands qui nous attendent. Il y a d'autres défis plus grands qui nous attendent. On n'a encore rien vu. Mais c'est le temps de nous préparer, par exemple. C'est le temps de nous préparer. Ça, il faut en être conscient. Allez dans Jérémie, chapitre 12. Jérémie, chapitre 12. Jérémie, chapitre 12. Et le verset 5, c'est Dieu qui parle. Rappelez-vous de ce verset-là. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? J'ai bien dit, là, c'est Dieu qui parle. Il dit, si tu cours avec des piétons et que ça te fatigue, tu n'es pas capable de tenir le rythme, tu n'es pas capable d'endurer ça, tu n'es pas capable de passer au travers de cette épreuve-là, tu n'en profites pas pour développer tes forces, comment tu vas faire pour courir avec des chevaux? Autrement dit, comment vous allez faire lorsqu'il y aura des tests encore plus grands, si vous n'avez pas réussi les tests plus petits, dans des temps paisibles, dans des temps où on a encore de la liberté de choix, en abondance? Mais si on passe les tests maintenant, si on reste accroché après Dieu, si on avance, si on compte sur lui, quand les tests plus grands vont venir, on sera capable, parce qu'on sera entraîné. On sera entraîné. Et si tu te crois en sûreté seulement dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Si vous êtes capable d'être, de vous sentir à l'aise seulement dans votre petit chez-vous, dans vos pays tranquilles et tout ça, quand arrivera un temps, dans d'autres circonstances, si vous n'avez pas été capable de passer à travers les épreuves là, puis à garder votre confiance en moi, puis à continuer à changer, comment vous allez faire si vous n'avez pas eu l'entraînement auparavant? Dieu permet les épreuves, les obstacles, les choix difficiles, où parfois c'est pas clair, pour justement qu'on apprenne à compter sur lui, à marcher dans ses voies. Vous savez, dans le labyrinthe de la vie, là, nous autres, on voit pas par-dessus. On voit horizontalement, hein? On va pas loin horizontalement. Sur le plan humain, ce qu'on voit d'abord, c'est les murs de maïs, là. Et ce qu'on voit, c'est le long détour à faire. Ce qu'on voit humainement, c'est l'obstacle. Ce qu'on voit humainement, c'est ce qui peut sembler sans issue, comme ce que les Israélites ont vu. Mais si, par contre, nous comptons totalement sur Dieu, si nous marchons avec lui, si nous gardons vraiment contact avec lui, à ce moment-là, lui va nous guider et va nous amener à terme. Vous lirez, j'irai pas, mais allez dans Ésaïe 36, verset 5, et Ésaïe 37, verset 16 et 20, l'histoire du roi Ézéchias quand Sanchérib est venu pour attaquer Israël. C'était une situation sans issue. Et il n'y avait pas moyen d'en sortir. C'était comme les Israélites sur le bord de la mer. Ézéchias était roi de Juda. Ésaïe 36 et Ésaïe 37. Et qu'est-ce que le roi de Juda a fait? Il a pris la lettre d'insulte de Sennachérib, le représentant du roi assyrien qui venait attaquer. Et il est allé devant l'Éternel. Puis il dit, Éternel, on est pris. On n'a pas de secours. C'est toi notre refuge. C'est toi notre Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé son GPS. Puis il a demandé à Dieu d'intervenir. Et Dieu est intervenu. Ça s'est passé, ça va se passer encore. Ça s'est passé sur le plan national, ça va se passer aussi sur le plan individuel dans les temps qui viennent. Nous avons l'assurance. Nous savons que lui va nous conduire à terme jusqu'au royaume. Vous vous rappelez les trois Hébreux à Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, face à la fournaise? Vous irez voir Daniel 3, verset 18. Ils ont dit au roi, on n'adorera pas ta statue. S'il faut mourir, on va mourir. Notre Dieu, c'est notre Dieu et on ne fera pas de compromis. Vous avez vu, vous connaissez l'histoire. Pourquoi est-ce qu'ils étaient pleins d'assurance? Pourquoi est-ce qu'ils étaient capables de réussir ça? Les deux choses que je vous ai dites tout à l'heure. Parce qu'ils marchaient avec Dieu, parce qu'ils comptaient sur Dieu. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas leur petit chemin à travers de ça, puis leur jardin secret ou leurs choses qu'ils gardaient ou faire ma volonté alors que Dieu me montre d'autres choses. Absolument pas. C'était total, c'était entier. Et Dieu a agi de la même façon envers eux. Total et entier. Ils ne sont pas morts dans la fournaise. Et même s'ils étaient morts, ils étaient prêts à mourir. Et dans le cas de certains serviteurs de Dieu, ça a été le cas dans le passé. Psaume 84. Ça, c'est tellement encourageant. Psaume 84. Verset 6. C'est ce qu'ils ont vécu. Heureux ceux qui placent en toi, mon Dieu, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur, voyez-vous, des chemins tout tracés. Ça n'a pas besoin d'être des chemins tracés dans le labyrinthe de la vie. Même s'il y a des murs tout le tour, même si on ne voit pas où ça débouche, qu'est-ce qui s'en vient? Si je suis proche de mon Dieu, il dit ici, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ceux qui marchent avec toi, qui se tiennent proches de toi, ils trouvent dans leur chemin, dans leur cœur des chemins tout tracés. Autrement dit, ils savent quoi faire et quand faire. Ils entendent la voix du Christ et ils le suivent. Et quand ce sera le temps de la fin pour passer à une grande étape vers le lieu de sécurité, par exemple, les vrais serviteurs de Dieu entendront la voix du Christ. À ce moment-là, ils sauront quoi faire. Dieu dirige notre vie, vous savez, vers le but. Il ne vous a pas appelé pour rien. Il ne veut pas vous laisser tomber. Dieu dirige notre vie vers le but, à travers les événements. Et vous irez voir dans Romains 8, 28, Dieu dit que tout ce qui nous arrive, il le permet, et ça concourt à notre bien, mais au bien de pas de n'importe qui, de ceux qui aiment Dieu. Et aimer Dieu, c'est marcher dans ses voies. Alors, tout concourt au bien de ceux qui marchent dans ses voies. Qu'est-ce que Dieu leur avait dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit aujourd'hui? Qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Quand tout bascule autour de nous, quand nous ne comprenons pas ce qui arrive, quand nous n'avons pas de réponse à nos questions, quand certains abandonnent autour de nous, quand notre visibilité devient très réduite ou presque nulle parce qu'il y a un mur en face, que faire? Que faire? Dieu répond. Qu'il marche avec la confiance à mettre en lui. Qu'il marche, qu'il continue de cheminer et qu'il compte sur moi. Tout simplement. Et là, on peut avoir l'assurance tranquille, le cœur paisible, l'assurance que Dieu va nous emmener à terme. Vous savez, le courage humain, c'est bon, hein? C'est beau. C'est beau, le courage humain. Mais le courage humain a rapidement ses limites. Mais le courage du Christ, qui vit dans ceux qui ont le Saint-Esprit, n'a pas de limites. Le courage humain a ses limites, mais le courage du Christ n'a aucune limite. Et c'est le Christ qui vit dans les appelés, qui continue à se repentir, et c'est lui qui va les transformer et les amener à terme. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, c'est tellement encourageant. je me rappelle pas du passage, mais il a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et s'il y en a un qui a passé par des épreuves, par des situations où il aurait pu se plaindre, où il aurait pu remettre en question son appel, c'est bien l'apôtre Paul. Il aurait pu souvent dire, Dieu, tu m'as abandonné. Il a souffert. Il a été battu. Il a passé des nuits de temps dans la mer, comme M. Bénédicte explique souvent. Mais jamais il a remis ça en question. Il marchait avec Dieu. Il avançait. Et il était en contact continuellement avec Dieu pour faire sa volonté. Et son GPS était ouvert et il avait la force de Dieu. Écoutez, l'année sacrée vient de commencer. Elle vient à peine de commencer. Allez dans Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible. L'année sacrée vient tout juste de commencer. On a célébré la Pâque. Hier soir, on a célébré la soirée mémorable. Ça a été tellement joyeux, enthousiasmant, de penser à notre libération et la libération totale qui s'en vient pour nous bientôt, au retour de Christ, et la libération de l'humanité aussi qui approche. L'année sacrée commence. On est le premier jour de la fête des pains sans levain. C'est le temps maintenant de nous fixer des buts pour avancer dans l'année qui vient. L'année commence. Dites-vous, cette année, je vais aller plus loin. Je vais rester proche de Dieu. Je vais m'approcher de lui et je vais rester plus proche de lui. Et je vais marcher, je vais suivre le chemin qu'il m'a montré pour m'améliorer, pour vaincre certaines faiblesses, identifier certaines faiblesses que vous avez. Moi, j'ai commencé à identifier certaines faiblesses en particulier, sur lesquelles je veux mettre l'accent pour me débarrasser de ces choses-là. Ça, ça plaît à Dieu, parce qu'il voit, quand on fait ça, des enfants qui veulent vraiment développer son caractère. Continuons avec zèle d'avancer spirituellement, en comptant sur Dieu, à nous purifier maintenant, tout au long de l'année. C'est ça, vivre selon les pains sans levain. C'est pas juste 7 jours dans une année. C'est 365 jours dans l'année. Et jusqu'au retour de Christ. Jusqu'au retour de Christ. Vivre dans l'attitude d'éliminer le mal de nos vies et de le remplacer par le fait de faire du bien, d'agir selon Dieu. Apocalypse 22, regardez à partir du verset 10. Et il me dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et oh, qu'il est proche pour nous maintenant. Que celui qui est injuste encore soit encore injuste. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Jean a écrit les choses de cette façon. Parce qu'on voit que le monde se souille de plus en plus, devient de plus en plus méchant, devient de plus en plus tordu, malheureux, misérable, cruel, tout ce que vous voulez. Parce qu'on est rendu au temps de la fin. Et de l'apôtre Jean avait dit, ceux qui vont se souiller de plus en plus en approchant de la fin. Mais que ceux qui sont justes fassent attention et deviennent de plus en plus justes. Et que le juste pratique encore la justice, qu'il continue. Et que celui qui est saint, qui a été mis à part, continue d'être à part et faire les choses différemment de la société babylonienne au milieu de laquelle il continue à vivre pour être capable de développer le vrai caractère de Dieu. Verset 12, voici, c'est le Christ qui parle. « Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville, la fameuse ville qu'Abraham a vue. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque pratique et aime le mensonge. Il n'y aura pas de place. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Vivons intensément après cette belle Pâque selon l'esprit des pains sans levain. Marchons avec Dieu de tout notre cœur. Demandons-lui de nous montrer nos fautes et de nous donner la force d'être capable de changer et faisons sa volonté en toute chose pour être proche de lui, pour comprendre les choses qui vont venir et être capable de paraître debout devant le Christ lorsqu'il va arriver.